Bonjour et bienvenue sur Qualité Management Podcast avec René Séon. Aujourd'hui avec les étudiants de licence professionnelle chaîne logistique globale à l'UT Clio d'Orléans.
J'ai bien aimé la petite aparté sur l'importance de la vision systémique.
J'ai pris conscience qu'il était important de prendre du recul avant d'affronter un problème.
L'impact réel des confrontations d'arguments pour valider son opinion.
Alors cette vision systémique, c'est celle qui permettra de prendre du recul, s'élever pour mieux voir, relier pour mieux comprendre et finalement situer pour mieux agir. C'est en quelque sorte le credo donc de la vision systémique. Notre culture a toujours eu tendance à privilégier largement le mode analytique pour résoudre les problèmes complexes. En faisant cela, les liens fondamentaux sont rompus et on aboutit donc à des effets pervers un peu plus tard. Les exemples sont innombrables aujourd'hui. Combien d'actions peuvent paraître tout à fait rationnelles localement alors qu'elles sont globalement catastrophiques? Aujourd'hui, la multiplication des exemples dans notre société aboutit au concept de développement durable dont le mode de pensée est éminemment systémique. Dans le cadre du cours sur les outils de la qualité, il me paraissait donc important de positionner les outils dans un schéma général où interviennent tous les acteurs dans le cadre du fonctionnement d'une entreprise reliée à son environnement. Parce que par nature, un outil est inanimé, il est bête, c'est la main qui va le faire agir, et c'est la tête qui va piloter la main. Il faut donc réfléchir à comment bien utiliser les outils et voir derrière eux quelles sont les méthodes, les stratégies à utiliser. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans ce domaine passionnant, je leur recommande le livre de Joël de Ronet, Le Macroscope, avant de s'attaquer un peu plus tard à ce monument de la pensée humaine qui est la méthode d'Edgar Morin.
Pour satisfaire le client, il faut connaître son besoin.
L'analyse fonctionnelle pense à un besoin.
Premier de ces outils, donc l'analyse fonctionnelle. Il faut tout d'abord se demander quelle est l'utilité de cette méthode, quel est son but, quel problème est-elle amenée à résoudre. Combien de fois vous vous êtes dit « ce que je viens d'acheter ne convient pas car il manque telle ou telle fonctionnalité » ou bien « je ne me sers pas de telle ou telle option ». En fait, on constate très souvent qu'un client exprime son souhait d'acheter un bien ou un service directement en fixant le moyen. Par exemple, en formulant « j'achète une voiture », j'exprime une solution à un besoin existant. Or, le besoin étant de se déplacer, il existe d'autres moyens pour le satisfaire. Je peux y aller à pied, en avion, à cheval, etc. Ceci nous permet de voir que le fait d'exprimer le besoin sous forme de fonction à accomplir va tout de suite permettre d'envisager de multiples solutions pour le prestataire. Plus je serai complet dans l'expression de mon besoin, plus le moyen retenu, qu'on peut aussi qualifier de réponse à un problème à résoudre, a des chances d'être pertinent. Par exemple, si j'ajoute comme critère que je n'ai aucune contrainte de temps, que je souhaite un mode de transport le moins polluant possible, bien je préférerais la marche à pied. Si l'objet de mon déplacement, au contraire, était la participation à une réunion à Paris, je peux proposer de la réaliser en vidéoconférence. Bref, une expression fonctionnelle du besoin va mettre les fournisseurs potentiels en situation d'innovation afin de proposer la solution adaptée. Au niveau des outils, on peut donc distinguer 1. Tout d'abord, l'énoncé du besoin. La bête à cornes permettra de relier le système solution en perspective du besoin. À qui rend-il service et sur quoi agit-il? Puis tout cela dans quel but? Par exemple, si l'on considère un système d'essuie-glace, il rend service aux occupants de la voiture et il agit sur l'état du pare-brise, dans le but de dégager un champ de vision large. 2. Ensuite, c'est l'analyse fonctionnelle proprement dite. La pieuvre permettra de lister les fonctions à remplir par le système tout au long de son cycle de vie, et pas seulement dans sa phase d'utilisation. Il faut tout d'abord recenser les milieux extérieurs avec lesquels le système sera en contact, puis les relier entre eux. Dans ce cas-là, c'est une fonction de service. Prenons à nouveau un exemple. La fonction principale « tondre le gazon » reliera le jardinier et le gazon. Une fonction de contrainte sera recensée entre un milieu extérieur et le système. Par exemple, le tableau de bord devra permettre de commander la mise en route de l'essuie-glace. 3. La caractérisation des fonctions de service. Ici, c'est la méthode FAST qui permettra de préciser quelles sont les caractéristiques, fonctions techniques, sous-tendues par une fonction de service. 4. Enfin, c'est le cahier des charges fonctionnelles, autrement appelé CDCF, qui contiendra un tableau déterminant les critères à satisfaire en fonction d'un niveau assorti d'une flexibilité, qui est en fait une marge de liberté ou de négociation. Alors, sans devenir pour autant un spécialiste de l'analyse fonctionnelle, si déjà vous pensez en termes de fonctions à remplir plutôt qu'en termes de solutions, eh bien, ce sera déjà un grand progrès.
J'ai compris qu'il est important d'analyser et de chiffrer les risques par des outils adaptés.
Aujourd'hui, j'ai découvert l'AMDEC.
L'AMDEC, ou la gestion des risques, donc cette méthode va permettre de renforcer la fiabilité d'un produit, d'un processus ou d'un projet, selon le champ auquel on va l'appliquer. Si c'est un nouveau produit, son utilisation aura surtout un aspect préventif. S'il s'agit au contraire d'un produit existant, nous partirons des avaries déjà connues, et dans ce cas-là, nous serons plus dans une logique d'action corrective ou d'amélioration. Alors les étapes. Premièrement, recenser les défaillances. 2. Déterminer leurs causes. 3. Déterminer les effets ou conséquences, ainsi que l'impact. 4. Recenser ce qui est déjà en place pour détecter le problème avant que les effets ne se fassent sentir. À partir de là, il faudra chiffrer 3 éléments qui permettront d'obtenir un indice de criticité. Grand F, la fréquence d'apparition du problème. Grand G, la gravité des effets. Grand D, la probabilité de non-détection d'un problème. Il faudra se doter d'une échelle, par exemple pour la fréquence 5 tous les jours, 4 fréquemment, 3 de temps en temps, 2 rarement, 1 exceptionnellement. Pour la gravité, 5 sécurité en jeu ou grave dysfonctionnement, 4 très gênant, 3 gênant, 2 petite perturbation, 1 pratiquement sans effet. Quant à la non-détection, 5. Pas de détection. 4. Détection peu probable. 3. Détection probable. 2. Détection fortement probable. 1. Détection quasi certaine. Après cela, on fera le produit des 3, donc grand C égale F multiplié par G multiplié par N, ce qui nous donnera un indice global de criticité. L'ensemble des lignes finalement que nous aurons obtenues sur notre tableau pourront être hiérarchisées en fonction du total. On s'attaquera évidemment aux premières d'entre elles, celles qui comportent le coefficient le plus élevé. Et la phase suivante sera donc d'améliorer le niveau de maîtrise en définissant une mesure corrective qui permettra donc de réduire ce risque en agissant par exemple sur la fréquence d'apparition ou bien sur la probabilité de détection ou l'atténuation des effets. Et après cela, il faudra procéder à une nouvelle cotation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à réagir directement en ligne à ce podcast ou bien à rené.seon@gmail.com. À bientôt.